Cours de philosophie éthique du 10 octobre 1996 par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jean-d'Arc.
est-ce que cet acte est moral ou pas? Est-ce qu'on peut assister au cours en continuant de siffler intérieurement, je parle là-bas. C'est idiot d'assister à ce cours. Mais je suis obligé d'y aller. Si je vais pas, on me mettra à la porte. Je désire rester. Je comprends pas. C'est complètement idiot. Moi aussi, j'assiste au cours. Pas en disant ça, parce que là... Mais... En disant, j'essaie de chercher avec vous la vérité. Quelle vérité? Mais qu'est-ce que c'est qu'un acte moral? Durant la journée, est-ce que tous mes actes sont moraux? Ou il y en a qui ne le sont pas? Pas bon ou mauvais, non, moral. Est-ce qu'un acte humain est un acte moral? Oui. Parce qu'un acte qui n'est pas moral est un acte instinctif. L'animal qui est en moi se réveille. Alors, j'ai l'heure où je suis moralement éveillé. J'ai l'heure où je continue d'être dans mon lit. Je continue de dormir. Il faut aucune attention à ce qu'on me dit. Je continue de dormir parce que j'ai un problème intérieur qui me tracasse. Je continue d'y penser. Et je le porte en moi. Je peux imaginer un monde qui n'est pas du tout le monde que je vis extérieurement. Je vis mon monde. Et je le fais volontairement. Tout ce que je fais volontairement est moral. Ce que je fais instinctivement et non pas volontairement est en dehors du point de vue moral. Je fais sous l'influence de la drogue n'est plus moral. Mais ce qui est moral, c'est de me mettre. où je n'ai plus la capacité humaine de faire quelque chose qui dépend de moi et qui relève de moi. C'est possible que je le fasse, je le fais par contrainte. Le fameux exemple que Thomas d'Aquin prend et qui nous fait bien saisir la chose. Celui qui traverse une tempête et qui est dans un petit bateau et quelquefois obligé de jeter à la mer tout ce qu'il a comme fardeau pour se sauver. Involontairement, il est obligé de jeter à la mer des choses précieuses qu'il n'aurait jamais jetées s'il n'y avait pas eu la tempête. Et alors là, on est en présence d'un acte d'homme, mais qui n'est pas volontaire. Vous êtes dans un contexte tel que vous ne pouvez plus faire un acte humain. La secte. Quand on est dans une secte, on ne peut plus faire l'acte humain. On est contraint. Alors, où on a été, où c'était un acte humain, c'était au point de départ. Et c'est ce que beaucoup diront pour la vie religieuse. Vous êtes entré, vous avez accepté de mener un genre de vie. Au bout d'un certain temps, ce n'est plus vous. Vous avez été complètement contaminé. Et le conditionnement est tel que vous ne faites plus d'acte humain. On n'a pas le droit à ça. Et la vie religieuse n'est pas une secte, puisque on doit garder toujours sa liberté. Mais évidemment, on est tout à fait d'accord qu'il y a un contexte qui fait qu'au bout d'un certain temps, on fait certaines choses qu'on n'aurait pas fait au point de départ. Alors tout dépend si ces choses sont bonnes, moralement bonnes. Alors à ce moment-là, le contexte vous aide à devenir un saint. Mais si le contexte vous avilit et vous fait faire des actes qui sont mauvais, moralement mauvais, humainement mauvais, le contexte vous avilit. Et diminue votre liberté. Et diminue la qualité de vos actes humains. Alors, vous êtes comme dans une secte qui enlève votre liberté et vous pouvez faire des actes qui sont des actes que vous ne feriez jamais si vous étiez seul. Alors, on fait un discernement là entre un contexte qui vous avilit, ou au contraire un contexte qui vous agrandit. Si le contexte vous avilit, très vite, vous tombez dans une secte. Si le contexte vous ennoblit, vous permet d'aller plus loin dans le don de tout vous-même, alors à ce moment-là, le contexte vous aide à réaliser l'idéal que vous recherchez. Mais chercher un idéal, ce n'est pas une secte. Chercher quelque chose qui vous ennoblit, ce n'est pas une secte. par l'intention. Tout ce qui implique une intention de vie est humain. Tout ce qui est réglé par une loi extérieure à moi est moral. C'est pas juste ça. Le point de vue moral implique une activité humaine orientée vers une fin. C'est ça l'activité humaine. Une activité humaine, une activité de l'homme qui n'est plus humaine, c'est celle qui n'est plus orientée vers une fin. Donc, l'activité orientée vers une fin, je crois, de constater que aujourd'hui, on est informé de tout. Mais le point de vue de la volonté est plus fragile. On est moins fort. Tout le contexte vous rend moins fort. Alors, on voit très bien comment le point de vue moral, d'une certaine manière, s'est étendu à une quantité de choses qu'avant, on ne s'arrêtait pas. On s'arrête à beaucoup plus de choses. Mais on est moins fort et par le fait même, on a plus de difficultés à se maintenir dans une honnêteté morale. Les circonstances dans lesquelles on vit diminuent énormément notre capacité de résister. Alors, la volonté est plus faible. Le point de vue moral peut diminuer dans sa responsabilité. Autrement dit, on voit tout de suite que le point de vue moral est complexe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger selon les apparences. Si le point de vue moral était simple, on pourrait le juger selon les apparences. Il est complexe. Et alors on peut analyser tous les éléments. Et c'est là, vous voyez, où le point de vue psychologique interviendra. Puisque la psychologie étudie avant tout le contexte dans lequel on pose un acte. Ce contexte implique tout le conditionnement. Alors, on peut analyser ce conditionnement et comprendre la complexité de l'acte humain. Et je crois qu'on peut dire que la complexité de l'acte humain a augmenté. Le conditionnement est devenu beaucoup plus important dans notre monde d'aujourd'hui qu'il ne l'était au début du siècle. Et par le fait même, le point de vue psychologique prend une importance plus grande, puisque c'est ce point de vue psychologique qui essaie de comprendre tout le conditionnement. Ce conditionnement est moral dans la mesure où il m'aide à découvrir ma finalité, dans la mesure où il m'interdit de saisir la finalité. Donc il joue dans les deux sens. finalité soit bonne et que j'ai conscience que l'acte que je pose me permet de m'approcher de ma finalité, d'acquérir une situation plus proche de ma finalité. C'est donc cette conformité avec ma finalité. Et je vois que l'acte est moral s'il y a une finalité. S'il n'y a aucune finalité, cet acte n'est pas moral. Ça explique du reste comment certains aiment mieux ne pas chercher leur finalité. Parce qu'ils savent qu'en cherchant leur finalité, ils subissent. Ils lient leur responsabilité à cette finalité. Tandis qu'au contraire, s'ils ont comme devise un dilettantisme absolu, ils ne subissent pas à une recherche de finalité. Alors, ça peut être coupable moralement, parce que nous n'avons pas le droit de fuir notre finalité. Nous n'avons pas le droit de supprimer cette finalité pour être plus libre. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'homme qui abdique. Qui abdique la manière dont il peut se rendre meilleur. et en l'augmentant, j'augmente ma responsabilité et le refus d'augmenter cette responsabilité. Et cela peut dépendre de moi intérieurement. Et je n'ai pas le droit de diminuer. Je n'ai pas le droit de supprimer tout ce champ que je peux rendre plus vaste. Parce que j'ai la responsabilité moi-même d'augmenter ma responsabilité. Et je peux la diminuer ou l'augmenter. Et en la diminuant ou en l'augmentant, je suis moi-même responsable d'être plus ou moins capable de me sanctifier, d'augmenter mon champ de responsabilité. C'est là où l'objectivité en morale est une objectivité toute différente de l'objectivité spéculative. L'objectivité spéculative, elle reste pour tous. Et elle est pour tous. L'objectivité morale, elle est toujours liée à telle ou telle personne, dans telle ou telle situation. Et cependant, ce n'est pas la morale d'une situation. La morale de situation, c'est de ne regarder que cet élément-là. Tandis que regarder cet élément comme faisant partie de tout un ensemble, c'est le réalisme de la morale. Et c'est montrer que la morale dépend de ma finalité. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que l'acte moral dépend de ma volonté. Et chercher le point de départ de la philosophie éthique, c'est essayer de préciser en philosophie qu'est-ce que c'est exactement que l'attitude morale. Un acte moral, c'est un acte qui me lie à ma finalité, à ce qui est bon pour moi. Vous dites que l'acte finalisé est un acte d'amour. Pouvez-vous expliciter? L'acte moral, c'est un acte finalisé. C'est-à-dire que j'ai conscience de choisir cette fin qui est mon bien. Et c'est vrai, c'est propre de la fin d'être un bien qu'on cherche pour lui-même. Or, un bien qu'on cherche pour lui-même, mon bien que je cherche pour lui-même, c'est justement un bien qui éveille en moi l'amour. Le propre du bien, c'est de susciter en moi un acte d'amour. Or, la fin, c'est tel bien. C'est un bien qu'on aime, qu'on recherche pour lui-même. Et non pas à cause d'autre chose. Qui est un bien, qui est un moyen. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est toujours bien déterminer la différence entre le bien et la fin. Comprenez que le bien, mon bien, en philosophie spéculative, vous cherchez ce qu'est le bien, la ratio boni. Y a-t-il entre la ratio boni et la ratio entis? comme mon bien. Je la regarde à travers l'amour qu'elle a suscité en moi. Et j'ai conscience de ça. J'ai conscience que je découvre subitement dans une réalité que je connaissais, qu'elle m'attire. Pourquoi certaines personnes m'attirent et d'autres personnes ne m'attirent pas? Je ne dis pas répugne, mais ne m'attirent pas. Alors, je découvre ça subitement. Très mystérieux. Alors, il y a des philosophes qui ont appelé ça les atomes croches. Ça ne veut rien dire du tout, ça, mais on voit d'autre part ce que ça veut dire. L'attirance d'une personne. À partir de ce moment-là, cette personne devient mon bien. Je l'aime. Elle a éveillé en moi un amour. Elle m'a séduit. C'est dit dans l'Écriture que Dieu me séduit. C'est au moment où il devient mon bien. Autrement, je dis oui, Dieu, c'est le bien pour tous. Ouais. Et je ne dis pas que c'est mon bien. Il y a un moment où je peux dire qu'une personne devient mon bien. Et elle est mon amie. Quand la personne que j'aime et qui m'attire, moi-même, je suis son bien et je l'attire. À ce moment-là, il y a le croisement des deux. Ça devient mon ami. Alors vous avez donc la ratio boni, mon bien, mon ami. Chaque fois, il y a une note particulière. Mon ami, il faut la réciprocité. Et il faut que cette réciprocité soit connue. Si cette réciprocité n'est pas connue, c'est pas mon ami. Mais ça peut exister. Je suis attiré par quelqu'un. Par discrétion, je ne dis pas. Quelquefois, il vaut mieux. Et puis, l'autre personne est attirée aussi. Donc, il y a véritablement une amitié. Mais qui ne peut pas s'épanouir parce qu'elle ne se connaît pas. Vous voyez, l'élément de connaissance pour l'amour. Il faut connaître cette réalité comme mon bien pour que je l'aime. C'est l'être qui attire, qui suscite en moi un amour. Je le sais et je le dévoile. Moi aussi, je suis attiré par elle. Et c'est cette coopération dans le bien qui fait l'amitié. Donc, la ratio N10 qui est au-dessus, le lien entre les deux. Et c'est en ce sens-là qu'on dira que le bien et l'être sont convertibles. C'est-à-dire que tout être, du fait même qu'il est, peut-être mon bien. Pas nécessairement, mais peut-être mon bien. Le bien implique l'exister. L'être possible n'est pas mon bien. Le bien implique l'exister. Il existe et il est mon bien en m'attirant. Il est mon ami quand cette attraction est mutuelle. Et ceci regarde et éveille la volonté. C'est la volonté qui est attirée par le bien, qui devient mon bien et qui devient mon ami. Donc c'est un acte volontaire. L'amour ce qui actue le plus profondément ma volonté. Ma volonté, dans ce qu'elle a de tout à fait propre, est sensibilisée par mon bien. Et ça éveille en moi un acte volontaire. L'acte volontaire le plus profond, c'est l'amour. J'aime. C'est une expérience intérieure que je dois faire pour comprendre ce que c'est que le bien. Je ne peux pas comprendre ce que c'est que le bien si je ne l'aime pas. C'est en l'aimant que je le comprends. Et c'est cela qui me fait comprendre le domaine pratique. C'est en aimant que je découvre mon bien. Et mon bien suscite donc, mon bien, c'est ce qui suscite en moi un amour, qui éveille en moi cet amour, et qui fait que je n'ai qu'un seul désir. Vous voyez, je passe de l'amour au désir. Nous verrons ça. Et qui mobilise toute ma vie. Je recherche le bien. Je recherche l'ami. Tout. Je recherche celui que j'aime. Et pour l'aimer pleinement, je sais qu'il faut qu'il m'aime. Je ne découvre pleinement l'autre. Alors là, c'est la découverte de l'autre. Je ne découvre l'autre qu'en l'aimant. Et pour l'aimer vraiment, il faut que toutes les choses disparaissent et que je l'aime vraiment, pleinement, parce que je sais qu'il m'aime. S'il ne m'aimait pas, je ne pourrais pas l'aimer parfaitement. Oui, cette découverte qu'il y a d'un amour qui rencontre un autre être qui m'aime, et je les découvre comme ami, que quand je sais qu'il m'aime et que je l'aime. Et c'est ça, c'est là tout l'aspect de la subjectivité qui en même temps devient l'objectivité. Vous ne connaissez parfaitement l'autre que comme ami. Vous ne pouvez pas le découvrir autrement comme ami, comme l'autre. C'est pour ça que les philosophies qui ne comprennent pas la connaissance de l'autre, ce sont des philosophies qui n'ont pas saisi l'amour. L'autre, je ne le saisis vraiment que comme un ami. Et c'est vrai, tous les hommes que nous connaissons comme autres que moi, je sais que je ne les connais vraiment comme autres que si je les aime. Alors vous voyez là, le nouveau type de connaissance qui est une connaissance affective, aimante. Il ne faut pas opposer les deux. Il faut tout simplement comprendre que, étant donné que ma connaissance est partielle, elle est multiple. Pour connaître objectivement l'ami, comme ami, il faut la plus grande subjectivité. Quelqu'un qui dit « Ah, je connais parfaitement ça !» C'est « Attention, attention, est-ce que vous l'aimez ?» C'est là où la philosophie corrige ce que la psychologie peut dire. Parce que celui qui connaît l'autre uniquement par son comportement visible ne le connaît pas vraiment. Pour connaître vraiment l'autre, il faut le connaître comme mon bien. Alors à ce moment-là, j'ai de lui une connaissance intime et personnelle. Nous avons tous fait cette expérience, hein, du moins j'espère. Nous n'avons pas toujours réfléchi dessus. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, et que vous vous entendez le jugement du psychologue. Lui voit avant tout les ratés. C'est pas comme notre aîné. La fidélité dans l'amour. Pourquoi il n'est pas fidèle? Quand vous aimez quelqu'un, vous voyez avant tout ce qui en lui vous attire. Alors on dira, vous devenez aveugle. Ouais, si vous voulez, je deviens aveugle. Mais ce que je sais, c'est que je le connais beaucoup mieux que celui qui n'est pas aveugle. Objectif. Je veux rester dans l'objectivité la plus parfaite. Et donc je ne l'aime pas. Et vous croyez le connaître? Vous ne connaissez pas du tout. Vous voyez, c'est là la complexité de l'éthique. C'est là la complexité de cette connaissance pratique. Parce que cette connaissance pratique ne me révèle ce qu'est l'autre qu'en l'aimant. Alors on dira, en l'aimant, vous êtes partiel. Vous n'êtes plus objectif. Parce que vous l'aimez. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai une autre objectivité beaucoup plus profonde. Parce que je connais la personne humaine en l'aimant. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement important qui me montre que la philosophie éthique est indispensable pour connaître la personne humaine. Pour connaître mon bien. Mon bien. Mon bien qui est une personne. Parce que je suis un être spirituel, une personne. Et donc mon bien ne peut être qu'une personne. Et donc la personne, je la connais en métaphysique, mais j'ai une autre connaissance de la personne qui implique l'amour. Or l'amour est toujours singulier. C'est sûr. Quand j'aime, c'est mon être personnel, dans ce qu'il a de plus personnel. Singulier. Et c'est celui-là que j'aime. Et cependant, il y a quelque chose de ce singulier qui fait que je connais ce qu'il y a de plus profond dans cette personne. Alors, c'est pas parce que je connais ce qu'il y a de plus profond que ça devient universel. Non. Ça reste personnel et où je touche ce qu'il y a de plus intime et de plus profond. Alors ça c'est très important pour voir comment il y a un nouveau domaine qui s'ouvre. C'est ce domaine affectif. C'est ce domaine moral. Et ce domaine moral n'est parfaitement moral quand il touche l'ami. C'est pour cela que je peux dire que le domaine éthique, la philosophie éthique, n'est parfaitement elle-même que lorsqu'il y a l'expérience de l'amour d'amitié. Dès qu'il y a expérience de l'amour d'amitié, je comprends mon bien de la manière la plus parfaite. Or, l'éthique, c'est justement étudier quel est mon bien. Et quand c'est la philosophie éthique, ça doit être objectif. Mais l'objectif en éthique n'est parfait que quand il est subjectif. C'est pas contradictoire, c'est le propre du bien. Mais c'est là la grosse difficulté au point de vue philosophique. On voit quelqu'un comme Lévinas, qui est avant tout une philosophie éthique. Mais Lévinas, toute sa vie, a cherché l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'autre? Je suis. Mais le je suis de mon ami, de l'autre, je ne le connais pas. Donc sa personne, je ne la connais que si je l'aime et que si Parce que tant que je n'aime pas quelqu'un, une personne comme mon bien, et tant que je ne suis pas pour cette personne son bien, je ne touche pas, je n'atteins pas l'autre. Et tant que je n'atteins pas comme mon bien, comme ma fin, je tourne autour, je suis périphérique. Pour que j'atteigne vraiment l'autre comme personne, il faut l'aimer. Il faut qu'elle m'aime. Alors à ce moment-là, il y a une intersubjectivité qui me donne l'objectivité de la personne. C'est dans ce sens-là, voyez, que je puis dire que la philosophie éthique atteint en premier lieu, pas selon l'ordre génétique, mais selon l'ordre de perfection, atteint l'amour d'amitié. Et que s'il n'y a pas l'amour d'amitié, je ne connais pas l'autre comme mon bien. Et donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'irréductible et de tout à fait propre à l'éthique. C'est le gros problème d'aujourd'hui. Ricoeur, dans un de ses derniers articles, a reposé le problème en disant « c'est peut-être l'amour d'amitié qui doit nous faire comprendre ce que c'est que l'éthique ». Ça ne m'étonne pas du tout de Ricoeur, du reste, parce qu'au fond, il a cherché toute sa vie. Quand vous suivez Ricoeur, qui est le philosophe protestant, je crois calviniste, et qui est d'une très grande honnêteté, toute sa vie il a cherché. Parce que, c'est dit au fond, le grand problème philosophique, c'est connaître la personne. Le grand problème philosophique, c'est de connaître l'autre. Comment je le connais? Comment puis-je le connaître de la manière la plus parfaite qui soit? Alors, vous voyez, là on touche au point de vue ultime, l'aspect objectif. Le philosophe cherche la vérité, donc l'aspect objectif. Et en même temps, je ne peux connaître cette vérité que à travers une subjectivité, l'amour. Si je n'aime pas la personne humaine, je la découvrirai jamais. Alors, je ne peux aimer que si j'ai le sens de la finalité. Et c'est ça qui est terrible, c'est que depuis Descartes, la finalité est considérée comme secondaire. En théologie, depuis Occam, elle est considérée comme métaphorique. Donc, elle n'est plus philosophique, à cause de cet aspect subjectivité. Et je crois que là, on touche le drame de la philosophie contemporaine. C'est parce qu'on ne voit plus la finalité. Si vous comprenez que la philosophie éthique ne peut se faire qu'à partir de la finalité, c'est-à-dire à partir du bien qui devient mon bien, mon ami, si tout ça est supprimé, il n'y a plus d'éthique. La seule éthique qui existe, c'est l'éthique de la loi. La loi existe indépendamment d'un amour personnel. La loi apparaît comme supérieure à l'amitié parce qu'elle est universelle. Mais la grosse question de savoir si dans l'ordre de l'amour, c'est l'universel qui passe avant. Dans l'ordre de l'intelligibilité, ce qui est premier, c'est l'universel. Non, ce qui est premier, c'est l'universel. C'est pas vrai. Ce qui est premier, c'est l'être. Son intelligibilité. L'universel, c'est logique. Alors, faire le logique. Et on n'a pas la ratio entis. Si vous comprenez que la métaphysique regarde l'être, l'être est convertible avec le bien. Donc, la métaphysique assume, en respectant son caractère unique, assume l'éthique, puisque l'éthique regarde la ratio boni. Si l'éthique regarde la ratio boni, celui qui cherche l'être comprend qu'il faut nécessairement, à côté de la métaphysique, l'éthique. Et celui qui ne voit plus l'éthique dans la métaphysique, comme la relation personnelle, là encore, va glisser vers l'universel et vers la logique. Vous voyez, or, nous devons remonter ce glissement qui, en théologie, a eu lieu avec Occam. La métaphysique, c'est la logique. Nous devons remonter la source pour comprendre que la métaphysique a besoin d'éthique et que l'éthique reste libre.